le Bouddha, le Dharma et la civile communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état du Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la civile communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état du Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état du Bouddha pour le bien de tous les êtres. Avant de placer l'esprit en méditation, pendant quelques instants, je développe la bodhicitta. On se rappelle. Quel est l'objectif de la voie du Dharma? C'est la libération. La libération de la souffrance et des causes de la souffrance pour soi-même et pour tous les êtres. Tous les êtres sans exception. Donc nous devons tendre vers cette réalisation. Et c'est pourquoi nous travaillons sur notre esprit, c'est pourquoi nous entraînons notre esprit, c'est pourquoi nous méditons et suivons la voie. Et quand cette motivation est réaffirmée, bien présente dans notre esprit, alors nous plaçons notre esprit en méditation. Vous avez tous l'habitude maintenant de méditer. Essayez de placer l'esprit, non pas sur un support, mais simplement dans l'aspect connaissance, qui prend conscience de la présence de l'ensemble des phénomènes, donc qui reconnaît les phénomènes, sans les analyser, sans les juger, sans les retenir ni les refuser, demeurer simplement dans cet aspect connaissance. Pour cela, l'esprit doit être vaste, spacieux, détendu. Mais très clair, très lucide, très conscient.
Bien, alors la suite de l'enseignement, c'est le deuxième et troisième point ce soir, des huit causes pour un fruit ou pour un effet concernant l'esprit d'éveil. Alors, le premier point, on avait vu l'équanimité, comment développer l'équanimité, pourquoi il était important de développer l'équanimité. Ce soir, nous voyons la bonté fondamentale, ce qu'on appelle la bonté fondamentale, ce qui est un autre terme pour la nature de Bouddha. Et ça, c'est un des points essentiels dans la pratique du Dharma. Nous devons avoir confiance dans notre nature de Bouddha, dans la présence de notre nature de Bouddha. C'est plus difficile pour nous, occidentaux, je ne sais pas pourquoi, de par peut-être notre culture, que pour les Asiatiques, de développer cette confiance dans notre nature de Bouddha. Et le texte sur lequel je m'appuie, ce soir je ne vais pas d'ailleurs m'appuyer beaucoup sur ce texte, parce que le commentaire est très classique et il prend toujours l'exemple de la bonté maternelle. C'est un exemple qu'on voit dans beaucoup de traités bouddhistes, dans beaucoup de commentaires. Pour les Asiatiques, c'est évident la bonté d'une mère. Et ils sont toujours très surpris. Un Tibétain est toujours très surpris quand il vient en Occident, et voilà, et qu'il voit la tête de certaines personnes. Parce que pour eux, même si la mère les a peu élevés, ou pas élevés, ou pas aimés, etc., le fait d'avoir été enceinte pendant 9 mois, pour eux, ça suffit déjà. Parce que le fait d'être enceinte, ça a apporté beaucoup d'inconvénients pour la mère. Et surtout, elle avait le pouvoir de décider de le garder ou pas. Le pouvoir de vie et de mort sur son enfant. Et le fait qu'elle l'ait gardé, ça pour un Tibétain, il semble déjà plein de gratitude et en quelque sorte redevable, parce que par eux-mêmes, de toute façon, ils ne pouvaient pas vivre si la mère avait décidé de ne pas le garder. Voilà. Ensuite, il y a pour eux l'image de la mère au moment de la naissance. Ça, je pense que toutes les mères ici, vous n'allez pas me dire que c'est une partie de plaisir que de mettre un enfant au monde. Et ça, ma foi, pour les Tibétains, c'est évident, il faut qu'elle vive ça, et qu'elle accepte de vivre ça, et pas une fois pour certaines, mais plusieurs fois. Elle ne peut pas négocier avec ça, elle ne peut pas discuter avec ça, même si maintenant, par des systèmes médicaux, on peut atténuer la souffrance, etc. Mais pour eux, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, il y a le fait que le nouveau-né, par lui-même, ne peut pas vivre sans les soins, en tout cas de quelqu'un. Ça, c'est évident. On serait tous morts si notre mère, ou en tout cas un substitut, n'avait pas témoigné de soins et d'affection, mais un minimum, en tout cas, de soins pour que nous restions en vie. Voilà. Alors, pour eux, ils développent beaucoup, beaucoup cette image maternelle, et il est vrai que en Occident, même si on peut le comprendre, même si on le développe, ceux qui n'ont pas dans leur chair vécu cette relation, par exemple avec leur mère, ça reste quelque chose de concret, d'abstrait et pas de concret, et une vue de l'esprit, en tout cas une analyse, une compréhension mais analytique. Alors moi, j'aborderai le sujet autrement. J'aborderai le sujet de la découverte de la bonté fondamentale par la méditation. Parce que ça, nous pouvons tous en faire l'expérience, même si nous n'avons pas été élevés par notre mère. Il y a dans l'expérience du calme mental, donc dans la méditation de Shiné, quand nous sommes dans le calme mental, ce calme mental n'est pas un état sans dynamique, un état dans lequel il ne se passe rien. Ce n'est pas simplement un état de calme. Ce calme est toujours accompagné d'un sentiment profond d'amour. C'est pas, alors, on utilise dans ce sens-là, dans ce stade-là, on n'utilise pas le mot amour ou compassion, parce que souvent amour et compassion sont connotés d'une vue sentimentale, affective. Que la bonté fondamentale, c'est quelque chose qui est plus large, qui est plus vaste, dans le sens où il y a un état de bien-être, et en même temps, cet état de bien-être est un état de félicité pour soi, mais il y a le désir que tous les êtres le vivent, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est indissocié de l'expérience du calme.
Plénitude, peut-être. Un genre de plénitude.
Mais plénitude, mais bienveillante. Il y a cet aspect bienveillance. Je vous le dis comme ça, il y a un copain un jour qui disait à un lama, mais quand je suis dans cet état, j'ai envie de faire l'amour avec tout le monde. Quoi. Hein? Il avait cette image-là, quoi. Et il l'a traduit comme ça. Vous avez envie que tous les êtres soient heureux, quoi. Mais vraiment. Et là, vous comprenez, mais avec vos tripes, pas avec votre tête, pas par une analyse, mais vous le comprenez parce que, en fait, vous le vivez, parce que vous vivez à ce moment-là l'expérience du calme mental. Vous expérimentez en même temps qu'il n'y a pas de sens au fait de souffrir et au fait de faire souffrir. Et que s'il n'y a pas cette bonté fondamentale, les êtres ne peuvent pas être heureux, quoi. On ne peut pas soi-même être heureux, mais on ne peut pas faire en sorte que les autres soient heureux. Or, tout le monde aspire à ça. Et ce deuxième et ce troisième point, pour moi, sont développés en même temps. Parce que s'il y a expérience de cette bonté fondamentale en soi, immédiatement, instantanément, on l'aperçoit pour autrui, quoi. Et on ne peut pas la garder pour soi. Il y a un souhait, une expérience profonde, mais que tous les êtres vivent ça, quoi. Et ça, c'est une expérience, je pense, en Occident qu'il faut vraiment faire. Parce que nous avons, ça on en a déjà parlé, mais nous avons tellement tendance à ne pas croire en la présence de cette nature de Bouddha, de cette nature de sagesse. On voit la sagesse comme quelque chose de sec. On imagine que la sagesse, c'est une compréhension par notre tête. Mais la sagesse, elle est rayonnante de cette potentialité de bonté, d'amour, vous appelez ça comme vous voulez. Cette bonté fondamentale, elle doit être découverte, et parce que si on la découvre, mais alors on sait qu'elle est là et on peut compter dessus. Donc il y a une confiance qui se développe. Et cette expérience qui s'étend à autrui de façon immédiate, instantanée, nous permet de reconnaître cette bonté fondamentale existante chez l'autre en face, même si elle n'est pas visible, même si elle est vraiment difficile à percevoir. Et c'est ce qui nous permet, je pense, de dépasser la perception qu'on a, notamment des personnes avec qui la relation est difficile, avec qui nous sommes en conflit. Par le raisonnement, ça ne suffit pas. On peut comprendre pourquoi l'autre réagit de cette façon-là, parce qu'il est formaté comme ça, parce qu'elle est éduquée comme ça, parce que voilà. Mais ça, tant que ça reste au niveau du mental, on a la compréhension, et il n'y a pas le cœur qui s'ouvre à ce moment-là. Et la tête ne permet pas au cœur de s'ouvrir. Il faut qu'il y ait autre chose, ce n'est pas la tête qui est la clé de l'ouverture du cœur. Et ça, c'est, je pense, par la méditation. À ce moment-là, ça devient une évidence. C'est clair. Il y a cette expérience. Et quelqu'un qui vous dit, moi j'ai des expériences de calme mental, mais qui ne ressent pas cette bonté fondamentale, il n'est pas dans l'expérience du calme. Il est dans une espèce de torpeur, d'opacité. Parce que l'opacité, elle fait obstacle au rayonnement de la bodhicitta. Il ne faut plus qu'il y ait cette opacité. Il ne faut plus qu'il y ait aucune forme de saisie pour que se produise, pour que se vive cette expérience de bodhicitta. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très puissant. Et dans l'immédiateté de l'expérience, il y a l'expérience que c'est quelque chose d'infini, d'inépuisable. On peut témoigner ça, on peut lâcher et on peut exprimer cette dynamique-là. Plus on l'exprimera, plus il y en aura. Donc c'est quelque chose qui ne se tarit pas, quoi. Voilà, mais elle se fait dans l'expérience du calme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va empêcher cette expérience de se faire? La saisie gothique. La saisie avec toutes les différentes facettes de cette saisie, les facteurs perturbateurs. Dès que nous sommes sous l'emprise d'un facteur perturbateur, d'abord il n'y a pas de calme, et cette nature de Bouddha ne peut absolument pas s'exprimer. Et ça, nous devons absolument en faire l'expérience. Tout ça, ce sont des expériences que l'on fait dans Chiné. Et en même temps, le calme mental, ça pourrait être la bodhicitta ultime, déjà. Une première forme de la bodhicitta ultime, même si nous ne sommes pas dans vraiment la vacuité, dans l'acton, dans la vision supérieure. Et la bonté fondamentale, c'est l'expression de la bodhicitta relative. C'est-à-dire que dans l'expérience de Chiné, nous sommes déjà dans une forme de l'actong. Il n'y a pas vraiment de frontière entre Chiné et l'actong. Et c'est pourquoi beaucoup de maîtres du Mahamudra abordent le Mahamudra avec Chiné et l'Aktong, mais à peu près ensemble, quoi. Oui, quelquefois, pour des méthodes pédagogiques, on va vraiment enseigner d'abord Chiné. Si l'esprit est très agité chez la personne, par exemple, il faut qu'elle fasse d'abord Chiné. Parce que si le mental est trop agité, si l'esprit ne peut pas demeurer tranquille quelques secondes, l'actong ne pourra pas s'élever. Et c'est pourquoi, en termes de méthode, eh bien, on commence d'abord par Chiné, et puis ensuite l'actong. Mais ce n'est pas si séparé que ça, quoi. Dans l'expérience du calme mental, il y a déjà une expérience de l'actong. Seulement, on ne la reconnaît pas, on ne la verbalise pas, on ne sait pas que c'est déjà une approche de l'actong. Donc, pour moi, alors, par exemple, à partir du moment où vous méditez depuis des semaines, des mois, voire des années, il faut arriver à ça, quoi. Ça marque une étape dans le cheminement méditatif. Il ne faut pas attendre que ça se produise, mais il faut méditer. J'allais dire jusqu'à ce que ça se produise, mais il ne faut surtout pas s'arrêter quand ça se produit. Hein? Mais il faut que cette expérience, elle s'élève dans notre esprit. Parce que là, on découvre tout le matériau sur lequel va s'appuyer le bodhisattva pour développer son attitude altruiste. Et c'est le problème de beaucoup d'occidentaux, à mon avis, à force de rencontrer des occidentaux. Je ressens qu'il y a ce problème-là chez beaucoup de personnes. D'abord, faire le bien des êtres en Occident, c'est s'oublier soi-même. C'est, je veux bien m'occuper des autres, mais je n'ai pas le droit de m'occuper de moi. Ça, c'est une vue, j'en sais rien si c'est judéo-chrétien, j'en sais rien. Mais c'est une vue, en tout cas, très occidentale. Ça n'existe pas chez les Tibétains. Et Rinpoche, par exemple, maintenant, il sait qu'on fonctionne de cette façon-là, qu'on a cette tendance à se dénigrer soi-même, et il le dit. Il le dit, quand vous pratiquez pour le bien des êtres, vous faites partie de tous les êtres. Donc, pratiquez aussi pour vous-même, quoi. Les Occidentaux, dans cette attitude, voient de l'orgueil. Ils disent, mais est-ce que c'est pas égotique de pratiquer ou de prendre soin de soi. Comment pouvons-nous aider les êtres si nous avons une vue médiocre de soi, si nous sommes sûrs d'être incapables de toute façon d'aider les êtres, et si l'on ne prend pas soin de soi-même. Les Asiatiques, ils prennent beaucoup soin d'eux-mêmes pour pouvoir aider les autres. Et je pense que tous les bodhisattvas, eh bien, ça se sent chez eux. Et ce n'est pas développer de l'orgueil. C'est prendre conscience qu'il y a un matériau et que ce matériau, par la pratique, eh bien, je vais pouvoir le développer et le mettre au service des autres, mais au service de moi-même aussi. Si je suis en piteux état, si je n'ai pas confiance en moi, mais comment puis-je aider les autres? Donc ça, il faut transformer notre regard, quoi. On nous dit qu'il faut développer les qualités d'amour, les qualités de compassion, etc. Ça veut dire que nous avons ces qualités-là. Sinon, on nous dirait qu'il faut obtenir, acquérir ces qualités. Et il n'y a jamais ces termes-là. Il faut toujours les développer. Mais est-ce que nous sommes sûrs, malgré nos défauts, malgré nos tendances égotiques, est-ce que nous sommes sûrs d'avoir cette nature de Bouddha? Voilà. Et ça, c'est un examen à faire. Et ça n'a rien à voir, je dirais, avec à ce moment-là, avec la méditation. Mais il faut s'analyser. Et peu importe ce que pensent les autres de nous-mêmes. Hein. Parce que ça, c'est leur point de vue, c'est leur perception, laquelle est complètement soumise, eh bien, à leurs propres tendances et conditionnements. Mais dites-vous un bonjour, une bonne fois pour toutes, dites-vous, est-ce que je n'ai jamais aimé quelqu'un? Alors vous allez me dire, si, j'ai aimé, mais il y avait du désir, il y avait de l'attachement, etc. Oui. Mais même s'il y a autre chose que de l'amour, et pas seulement de l'amour, l'amour est là, quoi. Et les textes là-dessus prennent toujours cet exemple, hein, de ramasser de l'or, de chercher de l'or, mais si vous voulez, vous ne trouvez pas une pépite d'or comme ça, quoi. Vous êtes obligé de prendre tout un ensemble de terre et puis de chercher l'or qu'il y a là-dedans. Mais si vous ne prenez pas cet ensemble de terre, ben alors vous ne mourrez pas. Est-ce que nous n'avons jamais eu de compassion pour un de nos proches qui souffre? Tout le monde a vécu ça. Tout le monde a vécu ça. Alors oui, vous allez me dire, ça manque d'équanimité. On ne ressent pas de compassion pour tous les êtres. J'ai de la compassion pour cet individu parce que c'est mon enfant, c'est mon conjoint, c'est mon père, c'est ma mère, etc. Donc il y a de l'attachement, il y a une relation, etc. Oui, mais cette qualité de compassion, elle est bien. Et puis ça peut être très puissant, et ça on l'a déjà évoqué, mais ça peut être très puissant cette qualité. Lorsqu'un de vos proches souffre et que ça vous est insupportable, vous êtes capable de dire, mais puissais-je moi souffrir, mais que mon gosse ne souffre plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce potentiel-là en nous-mêmes, quoi. Dans l'expérience de bonté fondamentale dans la méditation, cette expérience, elle s'élève. Et en même temps qu'elle s'élève, il y a l'expérience d'équanimité. C'est-à-dire que c'est pour absolument tous les êtres, sans exception, quoi. Même à ce moment-là, vous pensez à votre pire ennemi, vous dites, tant pis, peu importe. Mais que cet être-là aussi soit heureux, quoi. Je pense, vous savez, qu'on nous pose souvent la notion de pardon en Occident, par rapport à ce qu'on a pu vivre, etc. Le pardon, ça vient de cette prise de conscience. Ça ne vient pas fondamentalement avec l'analyse et la tête, mais ça vient avec l'expérience. Alors, après, si on fait cette expérience-là une fois, bon, on sait que cette potentialité existe, mais évidemment, les tendances, elles reprennent le dessus, et puis ben, on retombe dans nos bons fonctionnements égotiques. Et c'est là où intervient le renoncement. On a vu le mois dernier que le renoncement était un des piliers de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Renoncer, ça veut dire renoncer à cela, quoi. Parce que cette expérience de calme et de bonté fondamentale ne peut s'élever dans l'esprit que lorsqu'il n'y a pas saisi. Tant qu'il y a saisi, cette expérience ne peut pas s'élever. Et il faut reconnaître que si elle s'élève, alors on a complètement lâché. Et c'est parce qu'on a lâché dans un état intérieur de totale acceptation que les choses soient comme elles sont, et bien c'est dans ce lâcher que l'expérience s'élève. Le renoncement, après, il devient évident. Il s'élève tout seul. On a envie de renoncer. Il n'y a plus à se forcer à renoncer. On a envie de renoncer à ses fonctionnements égotiques, à sa colère, à sa jalousie, etc. À tous ces facteurs perturbateurs. Parce qu'on fait le lien entre l'apparition de ces facteurs perturbateurs, ce qui les produit, c'est-à-dire la saisie égotique, et dukkha, la souffrance. Et la compassion, elle s'élève à ce moment-là. La compassion s'élève pour soi-même, mais elle s'élève aussi pour autrui. Tous les êtres qu'on rencontre, qui sont complètement coincés dans leur fonctionnement égotique et qui ne peuvent pas s'en dépêtrer. Mais à partir du moment où on a cette expérience-là, mais on ne peut avoir que de la compassion pour ces êtres, et même pour notre ennemi. Parce qu'on voit bien que l'esprit de cet individu est complètement... comment dire, empêtré dans un filet de fonctionnement, et que c'est comme un poisson pris dans un filet, il a beau se débattre, il ne peut pas s'en défaire, quoi. Si on ne lâche pas, si on ne coupe pas, eh bien, toutes les mailles du filet, le poisson ne peut pas s'échapper, quoi. Quand cette expérience s'élève, la bodhicitta, c'est quelque chose qui devient à ce moment-là, mais d'automatique, c'est tout seul. Ça s'élève tout seul. Et alors toute la pratique, elle va être axée sur comment faire pour que la saisie diminue afin que cette bodhicitta, eh bien, se développe encore et encore. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le début de l'activité éveillée. C'est vraiment... à ce moment-là, moi je pense que c'est à ce moment-là que l'attitude intérieure de Bodhisattva devient vraiment quelque chose. Tant que ça n'est pas lié à cette expérience, l'attitude de Bodhisattva, c'est quelque chose que l'on force, que l'on veut donner à son esprit, ce qui est très bien, hein. Il faut donner cette orientation à notre esprit. Mais l'esprit ne lit pas encore vraiment, quoi. Et cette attitude de Bodhisattva, eh bien, immédiatement, instantanément, il y a le sens de l'engagement. Donc c'est là pour moi où se situent les vœux de Bodhisattva. Ça devient automatique. Alors il ne faut pas attendre ça pour prendre les vœux de Bodhisattva. Hein? Mais vivre intérieurement les vœux de Bodhisattva de façon puissante, de façon vraiment que ça représente quelque chose de fort dans notre esprit, c'est à ce moment-là que ça se vit. Et il y a des personnes qui ne veulent pas prendre les vœux de Bodhisattva tant que, eh bien, qu'elles ne sont pas parfaites. Mais le jour où nous aurons développé cette bodhicitta de façon totalement épanouie, eh bien, nous n'aurons plus besoin de prendre les vœux de Bodhisattva. Donc, il ne faut pas attendre. Il faut les prendre. Il faut donner cette direction, cette... aspiration à notre esprit et les reprendre encore et encore afin de maintenir cette inspiration et puis maintenir la force donnée à notre esprit. Les textes disent qu'il faut reprendre les vœux de Bodhisattva toutes les 4 heures.
Se réveiller aussi.
Ce qui veut dire qu'ils sont extrêmement fragiles et que, eh bien, on va très rapidement les endommager, voire les briser. Alors, Kalo Rinpoche rajoutait à ça, en fait, ça serait très bien, eh bien, de les reprendre une fois par jour. Bon. Alors, quand on prend les vœux de Bodhisattva de façon formelle, avec un Rinpoche qui transmet les vœux de Bodhisattva, et on demandera à Rinpoche de les donner quand il va venir, D'abord, les reprendre de façon traditionnelle, ça c'est très bien parce que ça renforce eh bien, la détermination et le sens de l'engagement. Mais après, chaque personne peut les reprendre, mais seule avec son esprit. Qu'elle soit face à son hôtel ou toute seule au volant de sa voiture, mais peu importe à la limite. C'est une attitude intérieure, c'est prendre conscience que eh bien, nos voeux, notre engagement... C'est prendre conscience que notre engagement eh bien, a perdu de sa force, a été endommagé par une attitude, par un comportement. Et à ce moment-là, c'est redonner cette force à notre esprit. Et simplement reprendre les vœux, c'est de se dire, okay, je redétermine mon engagement, je reprends mon engagement et je redéveloppe ma vigilance pour que mon comportement eh bien, soit de plus en plus conforme à cet engagement. Vous savez, l'esprit, c'est quelque chose qui est malléable. On l'entraîne, on le discipline. Si tous les jours, une fois par jour, le matin par exemple, on reprend ses vœux de Bodhisattva, en quelques secondes, hein, mais qu'on redonne une forte impulsion, une forte empreinte à notre esprit, mais au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, mais ça va devenir beaucoup plus puissant dans notre esprit. Il faut l'entraîner, il faut simplement l'entraîner. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui ne veut plus des facteurs perturbateurs, qui ne veut plus de la souffrance, qui ne veut plus les causes de la souffrance, c'est-à-dire, en fait, qui ne veut plus de la saisie égotique. Le chemin, il est tout tracé, il n'est pas si difficile que ça. En tout cas, il n'est pas difficile à trouver, à déterminer, peut-être plus difficile à mettre en œuvre et à appliquer, ça d'accord, surtout dans la régularité et la durée. Mais le chemin du dharma, c'est mettre un terme à cette saisie égotique. Donc, cette saisie égotique, est-ce que tout le temps, toujours, quand elle se manifeste, eh bien, nous la voyons comme quelque chose qu'il faut faire en sorte qu'elle diminue. Ou est-ce qu'il y a, de temps en temps, la saisie égotique dans laquelle on se complaît et on se dit, offre tout. Hein? Voilà. C'est là où l'attitude du bodhisattva intervient. Et c'est là le sens de l'engagement. Le sens de l'engagement, c'est pas lors d'un rituel de transmission des vœux de bodhisattva, prononcer le vœu en tibétain, j'en sais rien, on sait même pas ce que ça veut dire. Mais voilà, le temps de la cérémonie, eh bien, donner une certaine force et à une attitude intérieure empreinte de bodhicitta. Mais ça dure quoi? Ça dure que quelques minutes. En général, on est plutôt bien disposé parce qu'on est plutôt ému par la présence du Rinpoche. Et donc, notre esprit est assez enclin à développer cet engagement. Mais les vœux de Bodhisattva, ça se maintient, ça s'entretient. On prend soin de ces vœux de Bodhisattva. Et ça ne veut pas dire que l'on ne va pas eh bien, les endommager, voire les briser. C'est pas un problème, je dirais, de les endommager. Le problème, et ça c'est assez fort chez les Occidentaux, le problème c'est de ne pas se relever. Le problème c'est de ne pas repartir, c'est de ne pas reprendre son engagement. Et pour tous les engagements, c'est comme ça. Personne ne peut dire que l'engagement que l'on prend là, aujourd'hui, on va pouvoir le vivre sans l'écorner, mais alors de rien du tout, et que dans 10 ans, il sera toujours intact. Quoi. Mais qui peut dire ça? Enfin.
Mais ce qu'il y a, c'est que ça peut... il peut y avoir des soucis par rapport, par exemple, au lama, ou...
Non, non,
quand
non,
on
non.
prend des vipolisattva, il n'y a pas... on a une faille, il n'y a pas...
Pas du tout, ça, vous confondez avec les dantiques, avec les liens initiatiques lors d'une
d'accord.
initiation. Et puis, vous savez, les damsiques endommagés là, à ce sujet, il suffit de les réparer quand on en a conscience. Et c'est bon, hein. C'est pas rédhibitoire. C'est pas. Non, c'est pas. il suffit d'en avoir conscience et puis de reprendre le Dame Sikh, enfin, intérieurement, là encore. Pour les vœux de Bodhisattva, non, il n'y a pas de ce type de relation qu'il y a dans le Vajrayana avec celui qui transmet les vœux. Mais. Pourquoi on disait ça? Parce que.
Parce que des fois, on ne se relève pas.
Ah oui, voilà. Voilà, ça, c'est le problème de la culpabilité. Et c'est le problème du découragement. Et il faut se rappeler que le découragement, eh bien, ça brise les vœux du Bodhisattva. Mais alors, ça les brise vraiment, quoi. En fait, un Bodhisattva, c'est quelqu'un, eh bien, qui doit avoir vraiment confiance en lui. Même quand il flanche. Et c'est quelqu'un qui ne peut compter fondamentalement que sur lui-même, que sur sa nature de Bouddha. Il y a des textes qui décrivent le Bodhisattva comme quelqu'un qui doit se sentir responsable de l'éveil, de la libération de tous les êtres, mais par lui-même et par lui seul. Mais c'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous savez, quand on rencontre des Bodhisattvas accomplis, et qu'ils aient une étiquette bouddhiste, ou pas, ou sans étiquette, qu'est-ce qu'on sent chez eux? Quelque chose de sûr, de solide, sur lequel ils s'appuient. Ce sont des gens, en général, extrêmement déterminés. Regardez l'abbé Pierre, regardez Sœur Emmanuelle, franchement, ils étaient capables de remuer ciel et terre pour faire aboutir ce à quoi ils voulaient aboutir. Il y a une grande puissance dans leur esprit, une grande force. C'est pas de l'eau tiède, hein. Ils y vont, quoi. Quand vous regardez le Dalai Lama, les Rinpoche, quels que soient les Rinpoche que vous rencontrez, leur activité, elle se base là-dessus. Le bien des êtres, la bodhicitta. Peu importe s'ils sont malades, peu importe s'ils sont vieux, peu importe s'ils ne sont pas bien disposés aujourd'hui, peu importe s'ils sont un peu fatigués, si ça c'est utile pour des êtres, alors ils le font. Mais à notre niveau, en tant que Bodhisattva, nous n'avons pas à faire ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que nous avons à faire dans notre quotidien? C'est l'attitude intérieure, c'est l'attitude d'esprit qui est importante. Après, dans la façon de faire, ça c'est à chacun de trouver ce qu'il peut faire en fonction de ses possibilités. Mais c'est l'attitude, le vœu de Bodhisattva, c'est une attitude intérieure. C'est l'attitude de l'esprit. C'est-à-dire que même si on ne sort pas de son village ou de son quartier, mais si nous gardons cette force, cette motivation puissante dans notre esprit, quand il y a une situation qui exige la bodhicitta, si on est là, on est prêt et on la vit. Et le bodhisattva, c'est quelqu'un qui ne fait pas de miracle, mais c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire là où il se trouve, avec cet esprit intérieur qu'on appelle la bodhicitta. Et pour arriver à cela sans que ce soit remis en question sans arrêt par nos tendances égotiques, par les difficultés que l'on peut rencontrer dans les relations avec autrui, dans les difficultés qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours qui font que, eh bien, il y a fatigue, découragement, perte de confiance en soi, etc., sans que il y ait tout cela qui vienne bousculer notre motivation, elle ne sera pas bousculée quand on fait l'expérience de cette bonté fondamentale par la pratique méditative. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait expérimenter, goûter un jour à cette nature de Bouddha, c'est une nature fondamentale. Je regarde si j'ai pas où j'en suis. Après, bien sûr qu'à partir de là, vous pouvez reprendre l'exemple tibétain de l'amour maternel, de la bonté maternelle. Oui, ça. Ça a peut-être d'autant plus de sens pour ceux qui sont parents, qui ont une famille, etc. Moi, ça reste abstrait. En tout cas, par mon vraiment une expérience
paternelle.
Ensuite, le texte explique que quand on fait cette expérience, donc on la ressent pour tous les êtres, mais l'évidence vient aussi du fait qu'on comprend l'aspiration profonde de tous les êtres qui est d'être heureux. Et que ce n'est pas là encore quelque chose qui se développe dans notre esprit par une compréhension intellectuelle, mais ça devient une évidence, quoi. Tous les êtres cherchent à être heureux. Et observez autour de vous. Prenez 5-6 personnes que vous connaissez bien, assez différentes les unes des autres. Et voyez, sur l'espace de 10 ans, ce qu'elles ont décidé, les choix que ces personnes ont faits. Même s'ils sont en totale contradiction avec les choix que vous auriez fait vous, peu importe. Hein? Mais dites-vous pourquoi cette personne a choisi cela. Et toujours, à la base de ça, vous arriverez au fait que cette personne, elle a choisi ça parce que c'était sa forme d'aspiration au bonheur. Même si c'est un acte extrêmement négatif qu'elle accomplit. Parce qu'elle aspirait au bonheur. Elle s'est peut-être complètement fourvoyée dans le moyen. Peut-être, ça, d'accord. Mais l'aspiration qui l'a poussée à faire ce choix, c'était son aspiration au bonheur. Et si vous regardez votre propre façon de vivre et vos propres choix de vie, bah, à chaque fois, vous direz, attendez, j'ai fait ça parce que pour moi, c'était ça qui allait aboutir au bonheur. Pourquoi vous avez une famille ? C'était bien à un moment donné votre
conception,
image du bonheur. Ça l'est peut-être toujours, et tant mieux. Quelquefois, ça a peut-être changé. Mais, en tout cas, quand vous l'avez décidé, vous ne vous êtes pas dit, je vais me marier et avoir une famille, oh, la galère que ça va être. Franchement, c'est pas avec cet esprit que vous êtes engagé là-dedans. Bon, pourquoi vous avez choisi telle situation professionnelle, si vous en avez eu? C'était pas pour autre chose que ça faisait partie de votre conception, c'était un des aspects de votre conception du bonheur. C'était pas simplement pour parce qu'il faut bien travailler pour gagner de l'argent, pour vivre. Parce que vous pouvez faire la quête dans la rue pour avoir de l'argent pour vivre. Voilà. Et vous pouvez prendre comme ça tous les aspects de votre vie. Hein, sur l'espace, par exemple, de 10 ans, qu'est-ce qui nous a motivés? Il y a des gens qui me disent « Oh, quel courage vous avez eu de tout avoir abandonné un jour pour devenir moine. » Je dis « Mais il n'y a aucun courage. Il n'y a aucun courage, c'était une évidence. Si je ne le faisais pas, je n'étais pas heureux. Est-ce que vous avez du courage quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez un coup de foudre? Il n'y a aucun courage. Vous êtes capable de déménager au fin fond de la terre simplement pour un coup de foudre.
C'est après qu'on se dit.
Il n'y a aucun courage. La décision, elle n'est pas prise par courage. C'est une évidence. Et là encore, eh ben, c'est une conception du bonheur. Et si ce n'est pas une conception du bonheur, eh ben oui, effectivement, au bout de 6 mois, vous n'êtes plus moine. Hein, parce que, franchement, il y a peut-être d'autres façons d'être heureux, je suis bien d'accord. Voilà. Donc. Mais voilà, c'est. Donc, quelle est la différence entre les autres et nous? Aucune différence. Aucune différence. Même la personne qui fait souffrir quelqu'un, mais parce qu'elle imagine que par ce moyen-là, elle va être heureuse. Peut-être en éliminant une personne qui lui fait obstacle à son bonheur. C'est tout faux comme processus. Mais comme aspiration au départ, c'est quand même cette aspiration-là. Mais si, pour ce. Peut-être pas pour vous, parce que vous n'êtes pas dans cette optique, dans cette.
Le dirigeant de la Corée du Nord, il tue les gens c'est atroce. Non, mais c'est il est heureux, de, il est heureux comme ça.
Mais il les considère comme obstacle à ses
à sa doctrine, à son régime. Ce qui s'est passé lors de la dernière guerre, c'était une conception d'une forme du bonheur pour certains individus, en tout cas. Non, on retrouve toujours les mêmes choses, les facteurs perturbateurs. Pourquoi est-ce qu'on se complaît dans certains facteurs perturbateurs? Est-ce que ce n'est pas parce que on voit que notre bonheur, eh bien, fait partie de ces facteurs perturbateurs? La haine, c'est difficile, mais après tout, la paresse. Est-ce qu'on n'est pas heureux quand on est là à ne rien faire et à glandouiller toute la journée? Mais si, c'est pas si désagréable que ça.
C'est un luxe.
Voilà. Est-ce que ce n'est pas un aspect de notre conception du bonheur, le désir? Oui, la course toujours à cette avidité, etc. C'est quand même pour ça, c'est pour être heureux, quoi. Et on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de nous le dire, hein, c'est bien de nous inculquer. Mais si on marche dans le système, c'est aussi parce que ça entre dans notre conception du bonheur. Rouler avec la même voiture que vous avez aujourd'hui dans 10 ans, vous allez voir si vous allez être pleinement heureux. Pas si sûr. Pas si sûr.
À cause des réparations.
Les réparations. Mais il y a aussi l'image que moi je peux donner, ce que vont penser les autres, mon statut social, mon standing, etc. Et pour certaines personnes, c'est important. C'est leur conception aussi, d'un aspect en tout cas de leur bonheur. L'attachement. Est-ce que ça, on ne voit pas l'attachement comme bonheur? Et pourtant, hein, qu'est-ce qu'on souffre à cause de l'attachement, hein? Ça alors? Seulement, c'est difficile de voir l'aspect souffrance, l'aspect dukkha, là, dans l'attachement. Parce que le désir d'attachement, c'est très puissant dans le monde humain. La jalousie, oui, d'accord. Mais l'orgueil, après tout, l'orgueil. Pas si désagréable d'être vraiment de se sentir au centre du monde et tout gravite autour de soi. Pour certaines personnes, vous savez. Voilà. Bon, alors, le renoncement, il est lié à cette expérience de la bonté fondamentale. Et cette bonté fondamentale, elle ne peut s'élever que si on lâche. Seulement, voilà, on est là. Comme disait un lama, on a tous marre du samsara, mais on l'aime bien quand même. Et c'est vrai. Et ça, c'est à cause des tendances de notre esprit. Ça ne peut pas se, on ne peut pas lâcher comme ça du jour au lendemain. Quelquefois, le lâcher peut se produire parce que nous vivons quelque chose de très violent, de très puissant, intense, profond, dur. Et là, on en a tellement marre que là, on applique tous les enseignements, notre pratique, etc. Là, on applique vraiment. Quand, vous savez, par exemple, on a qu'on est perturbé par un flot de pensées incessant. Ça nous empêche de dormir, par exemple. Parce qu'on se fait du souci pour un tel, ou parce qu'on appréhende quelque chose, ou parce qu'on a du regret pour quelque chose, etc. Soit vous devenez à peu près fou à un moment donné, tellement vous êtes dans votre mental et que vous êtes accroché à votre mental, et quoi que vous fassiez, même si vous allez à l'autre bout du monde sous les cocotiers, vous êtes à la plage, mais ça continue de ruminer et il n'y a pas de paix dans l'esprit. Soit à un moment donné, vous vous dites, attends, ça ne sont que des pensées, ça. Ah oui, mais quand vous vous le dites et que vous lâchez, et là vous lâchez. Et instantanément, la paix s'installe. La tension disparaît. Il y a quelque chose de fou dans notre mode de fonctionnement, parce qu'on connaît le système, on connaît ce qu'il faut faire pour être heureux. Et oui, seulement, voilà. On est pétri de modes de fonctionnement qui font que, même si on veut, eh bien, ça ne marche pas.
On a des outils, on ne les utilise pas.
Et quelquefois, même si on les utilise, ça ne fonctionne pas.
C'est vrai.
Ça ne fonctionne pas parce que les conditionnements sont trop puissants.
Ouais.
Alors ça, on aborde l'autre point, c'est la purification de ces conditionnements, la purification de l'esprit. Et voilà pourquoi, dans la pratique du Mahamudra, les pratiques préliminaires, eh bien, sont associées. Parce que les préliminaires sont là pour purifier les conditionnements. Et si l'on veut que le Mahamudra s'élève plus rapidement dans l'esprit, non seulement il faut pratiquer Shiné et Lactong, mais il faut aussi pratiquer les préliminaires, c'est-à-dire qu'il faut accélérer le processus de purification des voiles, de façon à ce que l'expérience puisse s'élever. Et ça, on ne fait pas toujours le lien entre les préliminaires et le Mahamudra.
Et dans les préliminaires, avec le Guru Yoga, il y a quand même une rencontre avec la nature du Bouddha.
Ah oui, bien sûr.
C'est là qu'on la,
oui.
qu'on la travaille. Là.
Mais dès le départ, alors je sais que dans le Dzogchen, ils mettent beaucoup l'accent hein, sur le Guru Yoga.
Oui.
Ouais, ouais. Oui. Mais par exemple, dans notre lignée, on commence par les prosternations, c'est-à-dire le refuge et la bodhicitta.
Ah oui,
moi aussi.
Vous
aussi.
Oui. C'est les mêmes. Hein,
c'est les mêmes.
C'est ouais. les mêmes préliminaires.
D'accord. Ouais. Et on ne peut pas affirmer 100 fois de suite notre refuge si l'on n'a pas pris d'abord conscience de notre nature de Bouddha. Parce que dans les préliminaires, le fait de se prosterner, de faire les longues prosternations, c'est quand même pas rien ce qu'on évoque avec le corps. On se prosterne. Où est-ce qu'on se prosterne dans notre vie de tous les jours? Jamais. Aucune situation de notre vie quotidienne, on fait des grandes prosternations. Autrefois, un chrétien qui arrivait à l'église, il faisait une génuflexion. Il y avait ce symbole-là déjà de la prosternation. Nous, quand on entre dans un lieu de pratique, on fait 3 prosternations. Il y a quand même le corps qui exprime quelque chose de l'ordre de « je m'en remets hein, », de l'abandon. Comment ? Voilà, voilà. Mais dans les grandes prosternations, les préliminaires, alors là, on lâche totalement prise. Parce qu'on s'allonge, mais alors, c'est tout notre corps. Ah ben oui, mais si on ne peut pas le faire physiquement, bon, on le fait, on peut le faire mentalement seulement. Mais le faire physiquement, ça évoque quelque chose. Et vous avez des personnes qui physiquement peuvent très bien le faire et qui ne peuvent pas le faire physiquement. Parce que ça traduit un abandon, un lâcher prise. Je m'abandonne, quoi. Je m'en remets complètement. Ça veut dire qu'il faut avoir vraiment confiance, hein. S'en remettre. À qui s'en remet-on ?
À
notre nature de Bouddha. Et si on n'a pas confiance, et conscience d'abord, puis confiance en notre nature de Bouddha, c'est de la singerie que de faire les prosternations.
On se fait mal
aux genoux. Oui, en plus.
C'est karma.
Mais, et la bodhicitta est associée à cette pratique-là. On le fait pour tous les êtres qui ne peuvent pas le faire. Donc ça a beaucoup de sens, ces préliminaires. Ça purifie énormément, mais à condition que ce ne soit pas un simple exercice physique. Et il n'y a pas besoin d'en faire 500 en une session. Vous en faites le nombre que vous pouvez, mais si à chaque prosternation, vous donnez vraiment le sens de cet abandon, si à chaque fois vous dites, mais à quoi je m'abandonne? Oui, je m'abandonne à ma nature de Bouddha, j'ai confiance en elle, c'est-à-dire que si j'ai confiance en elle, mais je peux la mettre au service des autres. Ça, c'est là, il y a la bodhicitta qui est présente. Et ça, ça a beaucoup de sens.
Et là, on peut en faire plus.
Et là, on peut en faire beaucoup
plus. Ça parle beaucoup de sens.
Mmh. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. La méthode méditative n'est pas une simple méthode, quoi. C'est pas une simple technique. Hein? Ça doit être accompagné d'un sens que l'on doit vivre profondément dans notre esprit. Et pas avec notre tête, avec notre cœur, avec notre esprit. Et à ce moment-là, alors là, les préliminaires, il n'y a même pas besoin d'en faire 100 000. Ça purifie, ça purifie, ça purifie. Et puis, la purification, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que dans la pratique du refuge et de la bodhicitta, alors oui, cette confiance, elle se développe, et la bodhicitta vraiment se développe. C'est-à-dire que là, dès cette première des quatre préliminaires, eh bien, il y a l'esprit du bodhisattva qui s'installe, qui se met vraiment en place. Et après, bien sûr, on va passer à Vajrasattva, au mandala, et puis au guru yoga. Et le guru yoga, eh bien, c'est la quatrième, mais c'est vraiment la partie, à mon avis, la plus importante, parce qu'on unit notre esprit avec l'esprit du lama racine. Mais le lama racine, ce n'est pas Machin Rinpoche. C'est notre nature de Bouddha. Machin Rinpoche, c'est celui qui incarne pour moi, qui représente pour moi, qui me montre ma nature de Bouddha. Voilà. Et il faut voir le lama racine comme ça. Parce que alors, si on le voit toujours extérieur à nous-mêmes et qu'on est là comme ça, comme un petit garçon qui regarde papa, hein, eh bien le jour où Machin Rinpoche en question disparaît parce qu'il meurt, ou, eh bien là on se sent orphelin, quoi.
Il y a quelque chose à ce sujet qui m'interpelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne récite pas le premier couplet au glorieux et précieux de la lama racine qui est au-dessus de ma tête?
Oui, on peut. On
pourrait. Non, mais parce qu'à chaque fois, on ne le récite pas. Et en rapport à ce que vous dites, je me dis...
Parce que c'est déjà une prière qui est vraiment du Vajrayana. Une personne nouvelle, par exemple, ici, c'est clair que ça n'aurait pas vraiment de sens pour elle. Après, quand on est plus engagé dans la pratique depuis un certain temps, alors à ce moment-là, oui, surtout si on a établi une connexion avec un maître, par exemple. Ça, oui, d'accord.
Oui, oui. Mais vous disiez que, en fait, c'était nous aussi, avec nous.
Oui. Mais ça, quand on récite ces quatre vers au lama racine, souvent on pense à notre lama racine en tant que...
Oui, oui, c'est ça.
Machin Rinpoche. Mais c'est pour ça que dans la pratique du refuge et de la bodhicitta, au cœur de l'arbre du refuge, chez les Kagyupa, on ne représente pas notre lama racine sous son aspect humain. On le représente sous un aspect symbolique. Je crois que chez les Nyingmapa, vous représentez
Guru
Rinpoche. Voilà. C'est une autre forme. C'est un autre Nyamanakaya, nous c'est sous le Sambhogakaya, les Gelupa c'est le Bouddha Shakyamuni. C'est-à-dire que c'est toujours un principe. Nous on le représente sous un principe, mais en termes de Sambhogakaya, chez les Nyingmapa ou chez les Gelupa, c'est un principe sous l'aspect Nyamanakaya, humain. Quoi. Hein? Mais c'est un principe quand même, Guru Rinpoche. On ne peut pas développer de l'attachement envers Guru Rinpoche ou envers le Bouddha Shakyamuni. On ne les rencontre pas hein, tous les matins. Voilà. Par contre, faire la pratique du refuge en visualisant notre lama racine sous son aspect humain, là on peut développer un attachement, tant que le lama racine n'est pas décédé. Il y a une lignée, la lignée Shangpa, où il n'y a même pas d'arbre de refuge. C'est uniquement le lama racine sous son aspect humain, direct. Voilà. Mais en général, on évite cela parce que il ne faut pas que dans notre relation, eh bien, on développe de l'attachement à la personne.
La dépendance.
Voilà.
Et on pratique aussi la prière à ses proches, non ? On doit réciter la prière à ses proches, non ? Si, quand, dans une méditation.
Pas forcément. Ça, après, ça, c'est vous pouvez rajouter cela dans votre. Dans votre pratique, parce que oui, il y a du sens à réciter la prière à sept branches. Oui. La prière à sept branches, c'est avec l'hommage, les offrandes,
voilà, c'est ça.
Tout ça. Mm-hmm. Oui, ça on peut aussi, oui. On peut aussi, on rajoute en général l'offrande du mandala.
Voilà.
Aussi, oui. Ça, Mocho. Pardon ? Oui, oui, oui. Mocho Rinpoche, par exemple, il est un maître très traditionnel. Avant chaque enseignement, on récite tout ça. Et on termine par la requête du Dharma.
Ouais.
Mm-hmm. par la prière, la requête du Dharma. Voilà.
Alors l'offrande du mandala, les quatre continents, c'est quoi exactement les quatre continents?
Mais ça, c'est une représentation symbolique du monde dans lequel on est. Hein. L'offrande du mandala, après le refuge et la bodhicitta, la pratique de Vajrasattva, c'est purifier l'attachement qu'on a vis-à-vis de tout ce qui est douloureux, pénible, négatif. Parce qu'on a des attachements vis-à-vis de, par exemple, de la maladie. Ça, Et puis, le mandala, c'est purifier l'attachement qu'on a vis-à-vis des choses agréables. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on offre. On offre absolument tout. Alors là, il y a une forme symbolique aussi du mandala. Mais il faut dépasser la forme symbolique. Il faut offrir tout ce à quoi nous sommes attachés là dans notre quotidien. C'est là où il faut vraiment offrir. Voilà. Quand on a tout purifié, qu'est-ce qui reste? Il reste à unir notre esprit avec l'esprit du lama racine. C'est-à-dire à faire vraiment la pratique du guru yoga, de l'union avec le maître. Mais le maître, c'est notre nature de Bouddha. Et à ce moment-là, cette union-là, c'est l'éveil. Les préliminaires, c'est un ensemble de pratiques, mais qui conduisent par elles-mêmes à l'éveil. On appelle ça les préliminaires, parce qu'il faut passer par ces pratiques-là si on veut aller dans le Mahamudra qui utilise la forme, c'est-à-dire des yidams, etc. Mais Kalo Rinpoche, vous lisez dans la préface du Flambeau de la Certitude, l'interview de Kalo Rinpoche sur les préliminaires, il disait, on peut réaliser l'éveil uniquement par ces pratiques préliminaires. Donc il ne faut pas se dépêcher de les faire, il faut passer à autre chose parce qu'elles sont dites préliminaires. Mm-hmm. Sous-entendu, il y a quelque chose de principal après, quoi. Mm-hmm. Pas du tout. Voilà, alors essayez dans votre pratique, quand vous êtes en chiné, eh bien de ressentir cette potentialité puissante dans votre esprit de bonté, on va dire. Pas encore amour, compassion, mais de bonté, de souhait que tous les êtres eh bien, puissent être vraiment libres de tout ce qui fait entrave à leur bonheur et à leur bonheur ultime. Et d'avoir vraiment confiance en cette potentialité et à partir de votre pratique, eh bien, mettre au service de tous les êtres cette potentialité. Et dans votre quotidien, là où vous vous trouvez, dans ce que vous avez à faire, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on est un bodhisattva qu'il faut se dire, bon, ben, demain, il faut que je prenne le premier avion pour l'autre bout de la planète où ça meurt de faim. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est très bien, faites-le, quoi. Mais si vous n'avez pas la possibilité, soyez un bodhisattva là où vous êtes. Il faudra qu'il y ait plein de petits bodhisattvas comme ça. Et pour tout, pour toutes les situations, pas seulement pour les êtres humains.
Pour tous les êtres.
Pour tous les êtres. Eh oui. Eh oui. Et puis, ça, plus on travaille sur cette bodhicitta, mais plus on comprend l'interdépendance. C'est-à-dire que ce travail sur la bodhicitta, ça touche de plus en plus de secteurs et de plus en plus large. Si on ne préserve pas l'environnement, est-ce qu'on va vers le bonheur des êtres? Etc., etc., quoi. Donc ça touche quelque chose de très vaste et de plus en plus vaste. Alors comme Bodhisattva, c'est quelqu'un qui se sent investi, impliqué, mais dans tous les aspects de la vie, quoi.
Responsable.
Comment ?
Responsable.
Oui, c'est ça. C'est vrai. Tout à fait. C'est un beau mot de la fin. Mmh. C'est bon, voilà, je n'ai pas trop suivi mais tout ce qui est dit quand même a été dit, hein, mais voilà, c'est une autre présentation, c'est plus personnel, je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Il y avait Bokar Rinpoche, quand on allait le voir et qu'on lui disait que bon, on méditait comme ci, comme ça, il souriait, il disait oui, c'est bien, c'est bien. Et de toute façon, il était toujours souriant. Hein. Mais quand on lui disait qu'on prenait conscience de la bodhicitta et que ça devenait quelque chose de plus vivant dans notre esprit, alors là, il prenait la banane. Vraiment. Et souvent, quand ça se produisait, alors il souriait, mais on sentait que c'était vraiment le sourire du cœur, quoi. Et il posait sa main sur notre tête. Je ne sais pas s'il se disait intérieurement, tiens, enfin, un petit bodhisattva qui pousse. Je ne sais pas, mais il y avait quelque chose de, un peu de cet ordre-là, si vous voulez, quoi. Un bodhisattva ne peut être qu'heureux de voir d'autres bodhisattvas apparaître et grandir. Et,
ça a des répercussions quand on est heureux nous-mêmes, ça a des répercussions, ça fait comme un caillou que vous envoyez dans, la, ça, dans l'eau, ça fait un ricochet, il y a des ondes, donc ça s'étend, ça s'étend autour de nous,
ça fait
automatiquement.
Ça fait
quand on rend heureux quelqu'un, comment est notre esprit? Est-ce qu'il n'est pas détendu et heureux? Hein? Il suffit de s'observer quand on fait, je sais pas, un cadeau à quelqu'un, on témoigne chose, un peu de tendresse, de gentillesse, etc. Notre esprit est tellement plus heureux. Donc en fait, voilà, pour être heureux, il n'y a qu'une façon de faire. Ça devrait être simple.
C'est facile.
C'est facile en tout cas. Voilà, c'est...
Ouais. Mais on parle du bonheur, tout le monde cherche le bonheur avec un grand B, mais c'est des petits bonheurs, hein, quotidiens.
En parlant de bonheur, j'ai reçu une photo l'autre jour, je ne sais plus, j'en ai parlé ce week-end, je ne sais plus. Il y a 10 personnes sur un quai de gare. Et il y en a une sur les 10, qui regarde, je ne sais pas quoi, ou la dévoie. Quoi. Les 9 autres sont là.
Ah oui. Ah oui, ouais.
C'est vraiment marrant, ça.
C'est affreux, ça. Il n'y a pas que sur les quais de gare. Hein.
Les repas la de photo famille. Était vraiment.
Les repas de famille, quand il y a la jeunesse. Ah oh, bah oui. Jeunesse. Ça fait un moment, hein. même les tout jeunes. Je trouve que depuis qu'il y a les portables et tout, il n'y a plus beaucoup de dialogue. C'est vrai. Hein. Si vous autorisez les portables à table, moi j'ai vu ça pas chez moi, parce que moi je suis assez stricte pour ça, les repas c'est les repas, mais j'ai vu ça dans ma famille à baptême, hein, avec des jeunes.
Et pourtant,
5-6 jeunes, des cousins, cousines qui étaient là, tous avec leur portable.
Et pourtant, si on n'a pas de portable, on ne peut pas être heureux.
Si.
C'est une nouvelle marque de portable.
Si.
C'est peut-être pas une poche que vous envoyez un SMS.
Voilà, il va falloir que je regarde. Mais...
si.
Voilà. C'est vraiment la colonne vertébrale, la bodhicitta. Ouais. Hein, tout gravite autour de ça, quoi.
Moi, je voulais vous parler de la méditation que nous aviez préconisée le mois dernier, c'est-à-dire sans support,
ouais.
Avec le regard à l'horizontale. Ouais. Hein, et bien. On en parlait lundi avec quand Michael était là.
Et pourquoi c'est bien?
Eh bien parce que je trouve c'est pour moi, hein, mais pour ceux qui viennent à la méditation du lundi, c'est un sentiment de liberté, si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, je disais à Michael et aux autres que quelque chose est ouvert, on est ouvert, hein, l'esprit est ouvert, mais les pensées, elles ne, y a des pensées, mais elles ne rentrent pas, si vous voulez. Et toutes les consciences sont là, ça fonctionne. Il y a la conscience des pensées qui est là, qui supervise les autres. Et puis il y a quelque chose qui est. Alors moi j'adore ça. Je trouve que la méditation se fait vraiment dans un esprit calme, tranquille, et après vous faites, on peut faire plein de choses, quoi. Je trouve que voilà, parce que même Michael disait que quand on pratique chiné, mais avec un support, finalement, à force de fixer, on arrive quand même à laisser cette conscience partir, si vous voulez, et c'est là qu'on rentre dans la torpeur, finalement. Pas toujours, mais ça incite quand même.
Oui, mais le rôle du support, il est important parce que il évite la distraction. Et pour chiner sans support, il faut que l'esprit ait appris à ne pas être distrait.
Voilà, justement, voilà. Oui.
Donc, il faut passer par un support, mais après, effectivement, si l'esprit n'est pas emporté par les phénomènes qu'il perçoit, et si l'esprit reste très vif, et n'est pas dans une espèce de torpeur subtile, méditez sans support.
Oui.
Plus vous méditerez sans support, plus il y aura cette notion d'espace qui va se créer.
Oui.
De moins en moins, vous serez gêné par le flot des phénomènes.
Oui.
À un moment donné, vous vous direz, mais peu importe qu'il y ait tous ces phénomènes, l'esprit peut être paisible et calme malgré la présence de tout cela.
Oui.
Et ça, c'est le meilleur tremplin pour passer à la vision supérieure, à la tombe.
Voilà.
Donc, c'est très bien. C'est tout? Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.
Merci.